marche de l'histoire, du lundi au vendredi sur France Inter à 13h30.
Première règle du bon usage de l'histoire simple et brutale, savoir que le passé est là.
Jean Moulin avant Jean Moulin.
Au fond, ce n'est pas un homme du commun parce qu'il avait des talents, c'était un dessinateur, c'était un homme qui avait beaucoup de charme, qui était extrêmement curieux, qui était un séducteur et qui avait beaucoup de succès. Mais personne n'avait soupçonné qu'il puisse devenir un héros. Parce que toutes les qualités qu'il avait, c'était les qualités d'un homme qui avait une grande morale, d'un administrateur zélé, d'un homme tout à fait compétent, d'un amateur d'art, etc. Mais enfin, avec tout ça, on ne fait pas un héros et un martyr.
Son ami Marcel Bernard dit la même chose que Daniel Cordier, l'ancien secrétaire de Jean Moulin qu'on vient d'entendre. Marcel Bernard a pris début 1940 aux Arceaux à Montpellier la photo que tous connaissent. Il mit 40 ans à comprendre qu'elle était devenue une icône et il disait « Bon, mais sans être beau ni laid, il était pas mal. Mais enfin, quand il entrait quelque part, tout le monde ne se retournait pas pour le regarder. » C'est ainsi, la postérité a fait de Jean Moulin quelqu'un qui dépasse ce que furent son physique, son caractère, ses projets, ses ambitions. Il ne s'appartient plus. Avec les années, chaque jour de son existence a été scruté. Son rôle clé dans la résistance clandestine, bien sûr, mais peu à peu, à l'initiative de Daniel Cordier, parti à la recherche de l'inconnu du Panthéon, ce furent son enfance, sa carrière de haut fonctionnaire de la République, son activité de dessinateur et de collectionneur. Et ces derniers temps, sans que Cordier y soit pour rien cette fois, on s'est beaucoup préoccupé de sa vie amoureuse, on croirait presque que c'est devenu le plus important. Déplier chaque moment de l'existence de Jean Moulin, prenant beaucoup plus de temps qu'il ne lui en a fallu pour le vivre, la proposition que nous fait Bénédicte Vergès-Chaignan, qui a travaillé 10 ans aux côtés de Cordier, sera aujourd'hui de s'arrêter sur quelques moments particuliers. Jusqu'en 1939. Préfet d'Eure-et-Loire, il organise alors une exposition pour le 150e anniversaire de la Révolution française, dont il dessine l'affiche, mais dont il devine peut-être qu'il ne l'inaugurera pas, car la guerre aura éclaté. Son destin basculera à ce moment.
La marche de l'histoire. Jean Lebrun sur France Inter.
Bénédicte Vergès-Chaignan, bonjour.
Bonjour Jean Lebrun.
Un livre aux éditions Flammarion, plus mince hein, que les sommes, celles de Cordier et les autres qui ont été réunies ces dernières années. Jean Moulin l'a franchi. Alors, il faut d'abord que vous nous disiez comment vous avez travaillé, il y a de ça un quart de siècle peut-être, avec Daniel Cordier. La dernière fois que je suis allé le voir, il m'a montré une pile de papier, c'était prêt pour l'impression, à peu près. Enfin, il fallait vérifier encore une ou deux choses. Là, il fait ses mémoires maintenant, il est parti en décembre 44, Cordier, vers l'Espagne. Alors, il est tombé en panne dans les Landes. Il avait une grosse voiture. Est-ce que c'était la voiture de Göring? C'est à vérifier. Est-ce que c'était dans les Landes? Et où et à quelle heure en décembre 44? C'est à vérifier.
C'est l'histoire de ma jeunesse que vous racontez là, puisque elle s'est passée beaucoup à vérifier, entre crochets, ce que Daniel Cordier laissait en plan dans ses manuscrits de sa biographie monumentale de Jean Moulin. Et j'ai donc commencé ma première expérience, c'était de vérifier la couleur des doubles rideaux au Conseil Général de la Somme.
Où il a été tâche secrétaire dont, général voilà, de préfecture, Moulin.
Moulin, en 1935, tâche dont je n'ai pas pu m'acquitter, ça commençait mal.
1899, c'est vérifié dans le texte de Cordier, et à l'état civil, Jean Moulin naît à Béziers. C'est étrange de penser que le souvenir de Jean Moulin dans sa ville natale est maintenant sous la responsabilité du couple politique fort monsieur et madame Ménard. Il naît dans une ville alors en pleine expansion à cause de l'industrie du vin. La bourgeoisie viticole a construit des hôtels particuliers le long du jardin des poètes et a nommé Castelbon de Beaux-Hôtes, qui est le président de la Lyre bitéroise, organise des grands spectacles théâtraux et musicaux aux arènes de Béziers. Pensez, Jean Moulin a 2 mois et on joue juste à côté du domicile familial, Prométhée de Forêt en grand costume.
Et lui-même appartient à un milieu plus modeste, à un milieu de petits fonctionnaires, son père est professeur, mais avec les mêmes intérêts pour l'activité intellectuelle, pour les arts, et puis en plus une attractivité très très forte pour la politique.
Alors vous imaginez le petit Jean Moulin, parce que votre livre fonctionne avec des journées particulières.
Oui.
Un jour de 1907, il a donc 8 ans, et ne peut pas ne pas être au balcon du 3e étage de l'appartement familial, parce que les autorités militaires qui d'habitude jouent l'eau camel de Béziers, une procession de l'animal totémique de Béziers, cette fois-là ont déployé les troupes.
Oui, parce que donc on est en pleine révolte viticole à la suite de crise de surproduction du vin et le régiment local est en train de se mutiner dans le cadre de ces révoltes. Et donc le petit Jean a assisté depuis le balcon aux manifestations énormes des viticulteurs désespérés et il voit maintenant eh bien les conscrits qui ont mis la crosse du fusil en l'air, qui ont quitté leur cantonnement et on ne sait pas comment ça va tourner. Donc c'est une journée de tension et d'émotion intense qui ne peut que le marquer. Et en plus, c'est son anniversaire. Donc, étrange anniversaire, confiné sur le balcon de ses parents. Son père étant, comme je l'ai dit, foot politique, c'est un élu municipal de Béziers, va d'ailleurs prendre position sur ces événements en disant que toujours le dernier mot doit revenir à la légalité, mais que néanmoins il faut manifester de la clémence vis-à-vis de ces jeunes hommes.
Il ne parle jamais de son frère aîné.
Il n'en parle jamais. Il était très jeune quand son frère Joseph est décédé. Il l'a très peu connu. Il en garde quelques souvenirs néanmoins agréables de jeux partagés et en tout cas, quand il va choisir de lui-même son premier faux nom dans la clandestinité, il va choisir le prénom de Joseph.
Et sa sœur aînée, alors Laure Moulin, on l'entend ici dans une émission de juin 58, qui a donc été programmée à la télévision avant même le retour du général de Gaulle. Une émission signée Lalou et Barrère. On l'entend évoquer le climat politique de la famille. Il faut dire que le père, après avoir été conseiller municipal, est devenu conseiller général en 1913,
radical socialiste.
Il se passionnait, je crois, pour la politique quand il était jeune.
Mais oui. Pas tout jeune, mais enfin, c'était dans l'ambiance de la maison. Mon père a été un radical socialiste de la première heure, et il a fondé à Béziers la Société d'éducation populaire. Il donnait des quantités de conférences, il se dépensait sans compter. Et le devoir social et le devoir civique, c'était quelque chose de très important pour mon père. Il semblait, quand mon frère était jeune, qu'il écoutait distraitement ce que disait mon père. Mais mon père a eu une influence considérable sur son fils. Et il s'est inscrit tout de suite aux jeunesses laïques et républicaines.
Est-ce que c'est par vocation qu'il a embrassé la carrière préfectorale ?
Eh bien, vraiment, il n'avait pas de vocation très définie. Mon frère était un peu un rêveur, il ne s'inquiétait pas trop de l'avenir. Son père s'en souciait davantage pour lui. Or, mon père eût voulu lui-même, étant jeune, embrasser la carrière préfectorale. Et alors, mon père étant conseiller général, vice-président du conseil général à Montpellier, un préfet lui dit « Mais que faites-vous de votre fils ?» D'ailleurs, mon père avait bien cette idée derrière la tête. Alors quand il le dit à mon frère dit « Ma foi, ça aussi bien qu'autre chose. »
Mon père, dit Laure Moulin, enfin leur père, à Jean et à Laure, oriente, pistonne Il faut être clair.
Oui, oui, tout à fait.
Il n'y a pas d'ENA à l'époque.
Voilà, le premier emploi de Jean Moulin, c'est alors qu'il est étudiant en droit à Montpellier, attaché au cabinet du préfet de l'Hérault. Autant ça qu'autre chose, mais il faut dire que c'est la guerre. Hein. On est en 1917 et dans un premier temps, Jean Moulin fait ça aussi en attendant d'être appelé sous les drapeaux.
Dites-moi, un héros aurait dû s'engager avant d'être appelé, alors en avril 1918.
Alors,
Il est sous l'uniforme, mais il n'a pas devancé.
Non, il n'a pas devancé, mais je vais vous dire, Jean, que s'engager volontairement en 1917, ça n'est pas comme s'engager en 14 ou en 15. En général, en 1917, quand on s'engage volontairement par avance, c'est pour éviter l'infanterie, parce que c'est l'arme la plus dangereuse. Et donc, en laissant faire les choses, au fond, Jean Moulin ne sait pas chercher un abri.
Après l'armistice qu'il vit dans les Vosges, à Charmes, il s'ennuie quand même. Dans l'armée, il retrouve avec joie son poste, d'abord modeste, mais ses compétences font, il n'y a pas que le piston, qu'à 26 ans, il est sous-préfet à Albertville de deuxième, troisième classe.
Troisième classe.
Mais ensuite, il est sous-préfet à Châteaulin, en Bretagne, de
deuxième classe.
Alors, comment c'est une sous-préfecture? Vous racontez le voyage qu'il fait dans sa voiture de sport entre Albertville et Châteaulin. Et une relative déception quand même qui s'installe quand il arrive dans le bâtiment de la République.
Alors, les affectations dans la préfectorale fonctionnent encore beaucoup avec des appuis politiques. On progresse, on est muté, on change grâce au ministre de l'Intérieur et à son cabinet, et puis aussi grâce aux élus locaux. Et là, c'est le député local, Charles Danielou, qui veut un jeune sous-préfet avec une voiture pour pouvoir se déplacer dans l'arrondissement. Et donc, son choix se porte sur Jean Moulin, qui est... Alors, il a été le plus jeune sous-préfet de France à 26 ans. Il est très ambitieux. Et donc, c'est un moyen pour lui de progresser. Et il va faire comme ça la traversée de la France avec sa voiture pour rejoindre son nouveau poste. Et en arrivant à Châteaulin, et ben, c'est une petite déception.
Il n'y a pas de salle de bain, il y a une voiture dans le garage, mais il n'y a pas de salle
voilà,
de bain.
Voilà, ben, les toilettes sont au premier étage et les chambres sont au quatrième. Voilà, c'est vraiment une toute petite ville et une déception ben, qui sera vite surmontée par les rencontres qu'il va faire en Bretagne.
C'est une grande époque pour les arts décoratifs en Bretagne, celle des 16 Breurs. Il rencontre Saint-Paul Roux, il rencontre Max Jacob, parce qu'il faut que vous disiez que l'essentiel de son activité dans ces années-là, elle est consacrée à l'art et il va avoir beaucoup de pseudos pendant la Résistance. Mais il a un pseudo d'artiste.
Oui, il a un nom de dessinateur, Romanin, pour couvrir son identité de sous-préfet. Parce que, comme dit la chanson, il aurait voulu être un artiste. À l'origine, ce qu'il aime, c'est le dessin de presse. Qu'il a vu dans les nombreux journaux que lisait son père.
Il aura publié à 16 ans son premier
dessin. À 16 ans, dans des journaux nationaux, effectivement. Et durant toutes les années 20, il est dessinateur de presse dans des journaux à très fort tirage. On a du mal à se le représenter maintenant. Romanin, il a une vraie notoriété. Il est connu comme le dessinateur de Montparnasse et des sports d'hiver. Et c'est quelqu'un qui a beaucoup de succès et qui consacre l'essentiel de son temps de loisirs et autres peut-être, vu l'intensité de sa production. Il faut dire qu'il dessinait toujours plus ou moins. Il avait toujours un crayon à la main.
1935, c'est un sommet peut-être pour Romanin, dessinateur. Une illustration d'un livre du grand poète breton Tristan Corbière. Alors nous avons retrouvé Camille Yarmel, en 1963, beaucoup plus tard. Elle tient chronique à Radio-Bretagne et elle attend, de pied ferme, un invité.
Un des documents qui m'ont le plus mis en intimité spirituelle avec Tristan Corbière, ce sont les planches magnifiques dessinées par Jean Moulin sur la rhapsode foraine et sur le pardon de Sainte-Anne. Ces dessins, je les ai vus une fois. Elles sont actuellement la possession d'un ami très modeste. Cependant, si sa modestie est grande, sa gentillesse est extrême. Et je l'ai supplié de bien vouloir me rapporter aujourd'hui ces planches pour que je puisse devant vous les feuilleter de nouveau avec lui. J'espère qu'il va venir. Je crois que mon espoir n'est pas déçu. Il me semble que je l'entends entrer. Ah, cher ami, vous voilà, comme c'est gentil, comme c'est bon à vous. Et en plus, vous avez sous vos bras ces admirables dessins que j'ai eu l'occasion de voir une fois. Qu'est-ce donc que ceci ?
Alors, qu'est-ce donc que ceci, ces dessins de Moulin pour Corbière ?
Alors, qu'est-ce donc que ceci ? Dans les années 1930, Jean Moulin change complètement sa manière de dessiner et ses centres d'intérêt. Il abandonne le dessin de presse et il se met à illustrer soit des sujets d'histoire ancienne, soit en l'occurrence les poèmes tragiques de Tristan Corbière. Il se met aux eaux fortes et là son dessin devient noir et blanc, haché, très violent. Et là il y a des planches qui illustrent donc le pardon de Sainte-Anne de la Palue, où on voit tous les invalides et les désespérés de Bretagne qui viennent en pèlerinage, dans un foisonnement à la fois satirique et puis, parfois assez cru. Il illustre aussi l'histoire du camp de Conly, où de jeunes conscrits bretons de 1870 sont morts décimés par les épidémies. Ils représentent des charniers, des crucifiés, d'une manière qui nous semble maintenant prémonitoire et qui, en tout cas, montre que pour l'artiste Moulin, les années folles sont terminées. C'est une sorte d'apogée pour lui dans sa production artistique et il va délaisser à partir de ce moment-là tout ce qui est les publications et par contre il se met à collectionner
les plus grands que lui. Oui. Quand il habite Montparnasse pendant ses congés de sous-préfet, puis de préfet, il a loué un appartement rue des Plantes, une sorte d'atelier d'ailleurs, oui, dans un immeuble d'artiste très beau. Il y a toujours une plaque devant cet immeuble. Qu'est-ce qu'il collectionne ? Qu'est-ce qu'il met ? On a une idée de ce qu'il a mis dans cet atelier ?
Oui, alors il aime les peintres modernes, relativement à son époque, c'est-à-dire il va commencer à collectionner Utrillo, Marie-Laurencin, Chabot. Voilà, des peintres quand même plutôt figuratifs, mais qui sont modernes pour son époque et effectivement... Vous savez peut-être que sa couverture dans la clandestinité, ce sera d'être le propriétaire d'une galerie d'art moderne à Nice, où il commencera d'ailleurs, pour avoir quelque chose à mettre sur les murs, par accrocher ses propres toiles. Mais il démarchera aussi, par exemple, Matisse et un certain nombre de peintres qui sont réfugiés sur la Côte d'Azur.
Alors c'est une question à l'ancienne. Qu'y a-t-il sur les murs de l'atelier de la rue d'Alésia? Depuis un certain nombre d'années, la question moderne c'est qui reçoit-il dans l'atelier de la rue d'Alésia? Le maître Daniel Cordier nous arrêterait sur cette pente glissante, celle de l'évocation des amours de Jean Moulin.
Dans des circonstances où pour des raisons de sécurité, vous le comprenez, quand on était dans la rue, dans les tramways, dans le métro, etc., on ne pouvait pas parler du travail, n'est-ce pas? Et donc c'est là où il m'a parlé de l'art dont il était passionné, la littérature, il lisait beaucoup, on parlait des problèmes de quotidien, de la presse, c'était un grand lecteur de journal, mais aussi parfois, le soir, quand on rentrait après dîner, quand la journée était finie, j'accompagnais jusque chez lui avant d'entrer chez moi, et quelquefois, avec la peur pour chacun d'entre nous, ignorer ce qui nous attendait au prochain rendez-vous. C'est-à-dire, quand on ouvrait une porte, on ne savait jamais si c'était un visage ami ou si c'était la torture et la mort. Donc, c'est ça la solitude du clandestin, et vous comprendrez qu'il y avait des moments, oui, un peu d'abandon. Dans ces moments-là, ce sont les moments où on se confie. Or, la vie intime de Jean Moulin, ben, je l'ai connue, je l'ai décryptée avec des aveux comme ça, des morceaux, des débris. Et vous comprenez bien que jamais je n'en ai fait état, jamais je n'en ferai état. Parce que la moindre allusion à ce qu'il m'a confié dans ces circonstances-là, ça serait une trahison.
Vous n'êtes pas obligé, Bénédicte Vergès-Chaignan, de suivre cette recommandation, n'étant pas dans la même situation que Daniel Cordier, et puis tant de livres sont parus sur le sujet. Alors on y va. Madame Moulin, il y a une Madame Moulin ?
Oui, il y a une Madame Moulin, épousée à l'époque de la sous-préfecture d'Albertville.
1926.
Voilà, donc lui, il a 27 ans, mais elle, elle en a 19. Et bah, c'est Romanin qui s'est marié plutôt que Jean Moulin, parce qu'il a épousé une jeune fille qui voulait devenir cantatrice et qui se trouve bien déconvenue quand la sous-préfecture est venue. Et qui donc, bah, un jour où ils sont en congé à Paris, dit qu'elle rentrera plus tard parce que sa couturière n'a pas fini ses tenues et qui ne se montrera plus jamais.
1926-1928.
Voilà, un mariage éclair suivi d'un divorce éclair.
Mais à vous entendre, la voiture de sport dont vous parlez souvent, le ski dont vous parlez parfois, l'atelier de la rue d'Alésia, c'était un homme de bonne fortune et de rencontre d'un soir. Je vous cite. Hein.
Oui, je pense que après ce mariage calamiteux, bon bah il a cherché vraiment autre chose. Donc moi, après, bien sûr, je n'ai pas eu les confidences, donc je me fonde sur ses lettres, en particulier à son ami Marcel Bernard, ou au témoignage d'autres amis de Jean Moulin. Voilà, bon, disons que pendant les années 30, il a des liaisons à droite, à gauche, pas toujours très longues. Et c'est simplement à la fin des années 1930 qu'il aura des liaisons plus longues avec des femmes de son âge, qui, elles aussi, ne sont pas décidées à s'engager pour leurs propres raisons.
Et vous parlez d'Antoinette Saxe, de Gilberte Lyode. Quand on parle d'Antoinette Saxe, c'est pas des liaisons à droite, c'est plutôt des liaisons à gauche. Alors justement, la vie politique dans cette période qui devient fiévreuse des années 1930. Dès 1932, à la sous-préfecture de Châteaulin, il a reçu un coup de téléphone. Pierre Cotte, nommé secrétaire d'État, le cherchait comme chef de cabinet. Il suit Pierre Cotte en octobre 1933. Chef de cabinet toujours au ministère de l'Air. Votre livre fonctionne à partir de journées privilégiées, le 6 février 1934.
Oui.
Cotte est au gouvernement. Le gouvernement est fortement secoué par les émeutes,
oui,
du 6 février.
Et Jean Moulin est à la Chambre des députés. Il assiste au début de la séance extrêmement houleuse, c'est un euphémisme, qui doit avaliser ou non le nouveau gouvernement. Et à un moment, il sort sur le pont de la Concorde pour voir ce qui est en train de se passer dans la rue et il assiste aux émeutes, aux affrontements avec les gardes mobiles et les forces de l'ordre. Et ensuite, il revient à la chambre, il voit le gouvernement être investi assez largement, mais dans des conditions extrêmement difficile, et il déduit de tout ça que le fascisme est à l'œuvre en France et que la République va devoir se défendre par tous les moyens contre ses périls intérieurs et extérieurs.
Pierre Cotte sera l'antifasciste absolu, dit sa biographe Sabine Janssen, et un des hommes les plus haïs de France. Il est de nouveau ministre pendant le Front populaire, ministre de l'Air, et il organise avec Jean Moulin le ravitaillement en avion de la République espagnole, ravitaillement en sous-main, c'est la première activité clandestine,
oui,
de Jean Moulin.
Oui, tout à fait, à l'encontre de la politique officielle de non-intervention, qui consiste à trouver et acheminer des avions et des pilotes pour combattre aux côtés des républicains espagnols. Et de cette expérience, je pense que Jean Moulin a tiré l'idée qu'en cas de péril extrême, il faut s'unir et chercher une aide extérieure, si possible désintéressé.
Mais il a aussi, et d'abord des activités officielles, c'est lui par exemple qui va recevoir l'aviatrice Maryse Bastier. C'est la voix de Jean Moulin qu'on entend. Alors vous dites, Trois petits films ont été conservés où il apparaît fugitivement. Ce sont des films muets, mais là, c'est sa voix.
Marine Bastier, je félicite en vous l'aviatrice et je félicite aussi la charmante ambassadrice qui a su porter au-delà des mers le vrai visage de la France, souriante et pacifique. Marise, permettez-moi de vous donner l'accolade.
Là, je vous vois venir, la charmante ambassadrice, etc. etc.
Marise Bastier a été au moins une très bonne amie de Jean Moulin.
Vous racontez plus longuement l'accueil qu'il doit faire à deux aviateurs italiens qui ont gagné le raid Istres-Damas-Paris. Alors le voilà, lui, le chef de cabinet du ministre de l'Air, vous publiez la photo, il tend la main et l'Italien répond...
Par un salut fasciste. Effectivement, dans les attributions de Jean Moulin, il y a tout ce qui est raid et record d'aviation. Et au moment de l'exposition de 1937, le ministère de l'Air se charge d'organiser un raid d'aviation, une compétition internationale. Et bien, comme souvent en France, on est très fort, mais on n'est pas prêt. Et donc, ce sont les équipages de l'Italie fasciste qui vont emporter haut la main la compétition. Parmi les pilotes se trouve l'un des fils de Mussolini. Donc on imagine l'intensité de la propagande qui se fait autour de ça. Et son ministre n'étant pas là, eh bien c'est Jean Moulin qui s'y colle pour féliciter les vainqueurs et leur remettre leur prix en espèces sonnantes et trébuchantes. C'est d'autant plus amer que ce sont des pilotes qui ont combattu ou qui vont combattre en Espagne, du côté des nationalistes.
On est très fort, mais on n'est pas prêt. Il faut reconnaître à Pierre Cotte le mérite de l'avoir reconnu à plus d'une reprise.
Rien ne peut empêcher des aviateurs audacieux d'atteindre leur objectif. La vitesse des avions modernes, les techniques du vol de nuit et de la navigation à travers la brume ou les nuages ont fait d'immenses progrès au cours de ces dernières années. Et l'aviation de défense n'aura pas le temps d'intervenir assez vite pour empêcher les bombardiers de remplir leur mission.
Pierre Cotte débarqué, Jean Moulin va poursuivre sa carrière comme préfet maintenant. Il est préfet de l'Aveyron, Rodez, avant Edgar Pisani, après-guerre. Il est préfet de Eure-et-Loir, on le sait, à Chartres. Peut-être le dernier moment particulier, 1939. On célèbre la Révolution. Vous savez, en France, on aime célébrer, mais en 2018, on célèbre la fin de la guerre de 1914-1918, au moment où l'Europe commence à imploser. Et en 1939, on célèbre la Révolution de 1789, alors que la guerre, c'est demain.
Oui, c'est le 150e. Alors, on aime commémorer, mais alors là, cette commémoration-là, elle est organisée en traînant des pieds, vraiment à la dernière minute. Et Jean Moulin se singularise en lui essayant de donner un maximum de lustre à ses commémorations jusqu'à mettre la main au crayon, puisqu'il va dessiner lui-même l'affiche de l'exposition qui doit s'ouvrir à Chartres à la fin du mois d'août 1939, un certain nombre des panneaux, parce que Jean Moulin, il se revendique vraiment comme un républicain version Clémenceau, la révolution est un bloc, et en prenant quelques facilités avec la chronologie, il se présente couramment comme l'arrière-petit-fils d'un soldat de la Révolution et le petit-fils d'un proscrit du Second Empire. Donc pour lui, c'était vraiment une étape très importante, même si le restant de son énergie pendant l'été 1939 est consacré à essayer de se faire mobiliser dès le début de la guerre qu'il sait inévitable.
Si vous le voulez bien, on va laisser Jean Moulin à cet instant précis, avant qu'il ne devienne Jean Moulin et avant que son nom ne lui appartienne plus. Jean Moulin, La Franchie, c'est votre dernier livre, Bénédicte Vergès-Chaignan. Ça vous change de vos héros habituels, le docteur Ménétrel, le médecin de Pétain, ou le maréchal lui-même. Votre biographie du maréchal Pétain ressort en poche dans la collection Tempus chez Perrin, et je ne parle pas de l'excellent Monsieur Touvier. Cette émission était préparée par Frédéric Martin, la réalisation Lise Combe, à la technique Christian de Grataloup.